Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission que nous avons intitulée « Regardez le monde » avec la grande voyageuse Liv Joris, l'auteur de « Sur les ailes du dragon » publie « Phonie », traduit du néerlandais par Marie Haug chez Actes Sud. Un livre où, paradoxalement, elle ne raconte pas l'un de ses voyages, à moins que ce ne soit précisément le plus fondamental des voyages. Bonjour Liv Joris.
Bonjour.
Avec vous, deux garçons pour un seul livre. Mackenzie Orcel, écrivain haïtien, Nicolas Idier, écrivain français, ont écrit ensemble un curieux et stimulant livre intitulé « Une boîte de nuit à Calcutta ». C'est chez Robert Laffont. C'est une confrontation entre deux frères d'âme, une correspondance entre deux âmes sœurs, entretenue par mail et qui a fini par faire ce livre qui est plein de vos regards sur le monde, affûté, joueur, tragique, insupportablement sincère, comme vous le dites, Mackenzie Orcel. Bonjour Mackenzie Orcel d'ailleurs.
Bonjour.
Et bonjour Nicolas Idier.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois dans ce temps des écrivains. Liv Joris, j'ai reçu Phonie en même temps que Sur les ailes du dragon qui vient de paraître en poche, où vous relatez vos allers-retours entre Dubaï, la Chine, l'Afrique du Sud, le Congo. Et comme vous êtes membre de cette famille d'écrivains voyageurs, alors je disais avant que l'émission ne commence que je détestais ce nom. Vous aimez, on dit souvent Liv Joris, écrivain voyageur.
Ça retrécit un peu, je trouve.
Ouais. Ouais. Étonnant voyageur, c'est bien, mais écrivain voyageur, comme si les
c'est
autres...
C'est pas tout à fait... Une chose que j'aime.
Non. Voilà. Et vous aimez Nicolas Idier, Mackenzie Orcel, qui voyageait beaucoup d'ailleurs.
Voyageur, tout simplement, c'est mieux parce que dans le mot voyage, il y a de l'étonnement, il y a de l'émerveillement, il y a des découvertes, il y a beaucoup de surprises. Et il y a aussi beaucoup de rencontres avec soi-même, avec l'autre.
L'écriture est presque contenue dans le voyage.
Voilà, on passe par plein de choses. Donc, étonnant voyageur.
Ou écrivain voyageur.
Voyageur, écrivain, ça fait un peu trop.
Ouais, Nicolas Idier.
Je pense que le voyage est compris dans l'écriture, moi.
Ouais. Voilà, bon, c'est parfait. Donc on va dire des écrivains. Et alors je disais, voilà, non, c'est une famille, disons, d'écrivains qui ont beaucoup voyagé, où l'on peut compter sur des gens comme Richard Kapuscinski, Nicolas Bouvier ou V.S. Naipaul. Et puis finalement, je me suis dit, elle ne raconte pas un voyage, mais c'est peut-être un autre voyage, et peut-être le plus important des voyages d'Amphonie, puisqu'il se présente sous la forme d'un livre avec en couverture. Je parle rarement des couvertures, plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur des livres. Et là, il y a un petit garçon. J'ai compris que la photo était prise par votre père, puisqu'il est question de votre famille dans ce livre. Un petit garçon en tenue de première communion. Un petit garçon assez élégant, avec des chaussures d'ailleurs assez dépareillées.
Oui, notre frère me dit que peut-être c'était pas vraiment sa photo de communion, parce qu'à l'époque, comme c'était un garçon un peu turbulent, ouais, il était chez les sœurs de Don Bosco, un peu loin de chez nous, et il doit être venu en vacances, et maman tout d'un coup s'est rappelée qu'il a eu sa première communion. Elle a dit, allez, vite, 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 mets-toi, et puis elle a mis ses gants à elle, je crois, ouais, et puis des souliers, des vieux chaussures. Et peut-être sa chemise et sa veste viennent de la communion, mais le reste, je crois que c'est ma maman qui a fabriqué le jour même.
Voilà, et il est en photo, en fait, ce petit garçon, parce que le livre porte en français, en tout cas, son diminutif. Il s'appelait Alphonse, vous l'appeliez tous Phonie. Et c'est un livre qui lui est consacré à lui aussi et à votre famille. C'était votre frère aîné. Quand le livre commence, vous êtes en train de travailler vous-même à un nouveau livre et puis on vous appelle. Phonie est à l'hôpital dans le coma. Et puis va s'en suivre la visite au frère, qui est une forme d'ange déchu, très charismatique, très turbulent, vous l'avez dit, adepte de différentes drogues, qui s'est abîmé totalement dans les drogues. Et ce livre est la révélation de cette famille d'où vous procédez, dont il procédait aussi, lui aussi, c'est-à-dire un père, un mère et 9 enfants. C'est un livre où vous nous révélez quelle a été votre enfance en terre flamande, votre adolescence, qui est racontée par petites scènes d'un ton très tonique, parfois très drôle, avec toujours en contrepoint ce grand frère amoureux, vagabond, qui jouait admirablement du rock, et puis ses évasions diverses, et puis ses évasions à vous. Et on se dit qu'au fond, c'est peut-être aussi tous ces voyages que vous nous avez racontés à travers vos différents livres procèdent aussi peut-être de ce Fonny-là, de ce garçon-là, de ce grand frère avec lequel vous parliez de voyage. Et je me suis demandé si c'était le livre du retour à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, le voyage par excellence, parce qu'évidemment, le paradigme, ça serait Ulysse, quoi, qui ouais. revient enfin à Ithaque et tout a changé. Et au fond, on se demande si là, vous n'avez pas vérifié, est-ce que tout a changé ou est-ce que mes souvenirs sont intacts? C'est le livre du voyage du retour.
Oui, en fait, mon retour a commencé avec mon oncle du Congo, mon premier livre sur l'Afrique, parce que j'habitais aux Pays-Bas. J'avais commencé à voyager dans le monde arabe et à un moment, je me suis dit, mais je ne suis pas du monde arabe, je viens de quelque part. Et l'oncle missionnaire du Congo était
qu'on voit,
celui,
dans Fonny, hein.
Oui, c'est lui qui m'a fait rêver pour la première fois d'un ailleurs, loin de notre village un peu ennuyeux. Et puis Fonny, effectivement, est la deuxième personne qui m'a fait voyager, mais qui lui-même n'a pas beaucoup voyagé.
Alors
il
qu'il en rêvait.
Là. Oui, et c'est lui qui ouvrait les portes, qui n'allait plus à l'école très jeune, qui partait en Turquie, à Amsterdam, et revenait avec plein d'histoires, et qui a ouvert les portes de cette maison dans laquelle la maman avait une ambition pour ses filles, c'était qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants et un bon mari, un ingénieur par exemple. Bon, c'était les années 60, donc au moment où mon frère a commencé à se rebeller, la porte était ouverte et je me suis échappée.
Oui, et c'est pas tellement, je veux dire, le mariage qui est à l'horizon, hein. Il y a beaucoup de belles rencontres, d'ailleurs elle se demandait si le voyage... Et pas une rencontre. En tout cas, il y en a une pour vous deux, Mackenzie Orcel et Nicolas Hidier. Alors, vous n'êtes pas à la maison quand vous décidez d'écrire votre livre, mais dans une boîte de nuit d'un hôtel de Calcutta où vous vous retrouvez au cours d'un événement littéraire. Alors, il y a du bruit, il y a des rivières de gin tonic. Vous ne dansez pas, vous ne draguez pas, en tout cas pas à ce moment-là. Vous parlez alors même qu'on ne s'entend pas.
Ça, on l'a pas dit dans le livre.
Non, ah, non. Enfin, le lecteur dit, vous ne draguez, il ne voit pas ça. Hein, en tout cas, non, il y a un paradoxe. Il y a beaucoup de bruit et en fait, vous parlez et presque parce que vous ne pouvez pas vraiment vous entendre, il va y avoir ce livre. Alors, juste deux mots sur ce livre-là. Donc, c'est un livre à deux. C'est un échange. C'est une correspondance entre l'Inde où vous êtes en poste, Nicolas Hidier, et Haïti, où vous êtes très souvent Mackenzie Orcel, mais parfois vous êtes ailleurs et vous continuez à vous écrire. Et vous y parlez de tout, des écrivains que vous rencontrez, que vous lisez, d'Arundhati Roy, que vous connaissez bien, par exemple Nicolas Hidier. Vous échangez des conseils de lecture, vous parlez de vos envies de liberté folle, de la diplomatie culturelle, de vos enfants, de ce que c'est que la littérature, de ce qu'elle est en train de devenir. Vous envoyez des morceaux de nouvelles en espérant que l'autre va suivre, et parfois il suit. Vous parlez de suicide, vous parlez de vos démons, de tout ou presque tout. Et ça donne en fait un livre où le lecteur se sent un peu spectateur de quelque chose qui est censé être intime, mais que vous offrez au monde. Est-ce que c'est pour vous aussi le livre du retour à la maison, le livre de l'intime?
Je pense que c'est un livre qui a commencé en 2012. Et dès notre rencontre à Pékin, parce que...
C'était à Pékin d'abord, mais...
Oui, à Pékin voilà. D'abord en 2012. Et j'ai rencontré un ami, un frère, un passionné de voyage, de littérature, un fou. C'est-à-dire quelqu'un dont j'aime la vision de la vie, de la littérature, de l'écriture, du monde. Et puis on est resté en contact, on n'a pas arrêté de s'écrire. Et puis on allait se revoir à Calcutta, en Inde. Donc on s'est retrouvé dans cette boîte de nuit, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu, donc on avait plein de choses à se dire. Et il m'avait fait envoyer son livre que j'ai beaucoup aimé, Nouvelle Jeunesse. Je l'ai lu. J'ai fait envoyer aussi L'Ombre Animale ou Maître Minuit. Et puis, on était là. La musique était trop forte. On pouvait pas s'entendre. Et puis, je lui ai dit, bon, écoute, on met tout ça dans un livre. Comme ça sera fait parce que on a des choses à se dire.
Ouais.
Il a réfléchi 5 minutes. Il m'a dit, on fait ça.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'on était un peu éméchés. Je suis rentré à Paris. Et une semaine plus tard, il m'a envoyé son premier texte. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'étais sur les corrections de Maître Minuit.
Pour lequel vous étiez venu dans cette émission.
Voilà, ouais. Et donc j'ai lu ce texte et tout de suite, ça m'a remué, ça m'a dit quelque chose. Ce quelque chose, c'était quoi? Souvent, nous, les romanciers, en tout cas celles et ceux qui font de la fiction, c'est facile de se cacher plus ou moins derrière le rideau de cette fiction, de ce faux vrai. Le lecteur se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ce qu'il dit là? Il est où dans ce livre? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa voix? Et donc là... En lisant son texte, je me suis dit, je vais pouvoir être le narrateur, le protagoniste, le personnage de ce livre. Et donc, j'ai répondu, mais c'était ma voix. Et donc, ça a continué comme ça, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de douleur aussi, parce qu'on a créé toute une intimité.
Ouais.
Et donc, le lecteur, quand il lit ça, il se dit, est-ce que ça me regarde? Est-ce que je ne suis pas en train de violer l'intimité de deux jeunes garçons, de deux écrivains, de deux... Finalement, il se sent invité. Il se sent invité, il peut réagir parce qu'on parle de choses qui le concernent. On parle du monde, on parle de nous, on parle de beaucoup de choses. Hein. On parle de la famille, du monde d'aujourd'hui. Comme Nicolas le dit souvent, c'est des chroniques du monde.
Ouais. Nicolas, Didier.
Je crois qu'on écrit souvent pour se déséloigner. Donc le plus souvent, l'écrivain, en écrivant, se déséloigne de lui-même. Il se rapproche de son passé, de ses histoires, de sa famille, comme le livre que nous discutons avec Liv. Dans ce cas-là, on a décidé d'écrire un livre pour se déséloigner à deux. Et se rapprochant, petit à petit, se réunissant, on se rapprochait également de nous-mêmes. Moi, ce qui m'a bouleversé avec l'écriture d'Une boîte de nuit à Calcutta, c'est que grâce à Mackenzie et par Mackenzie, eh bien, je me suis retrouvé également. Comme si je m'étais un peu abandonné, j'avais laissé des morceaux de moi en France, plusieurs endroits de la France, en Chine, en Inde. C'est aussi un livre pour moi de le revoir à l'Inde. C'est un livre qui est
traversé.
Parce que
vous étiez en poste, hein, on peut le dire, en poste à l'ambassade en fait. Hein.
Oui, à l'Institut français de Delhi et 4 ans en Inde où j'ai eu une enfant, mon deuxième enfant est né en Inde. Puis brusquement, la sensation de partir à nouveau, c'est-à-dire, c'est pas un exil très glorieux, l'exil d'un diplomate qui rentre au travail, qui rentre en France, mais c'est un exil quand même, c'est quand même un arrachement. Puis au-delà de ça, c'est voir les gens partir, c'est un livre qui est traversé aussi bien par les naissances que par les départs, et petit à petit, j'ai eu l'impression de me rapprocher de beaucoup de choses, de peut-être même me réconcilier avec un certain nombre de choses.
Lesquelles?
Et ça aurait été impossible sans Mackenzie. Eh bien, me réconcilier, ne serait-ce qu'avec cette sensation que c'est pas grave, qu'on peut être dispersé, qu'on peut être divisé, que la quête d'une seule identité n'est pas forcément nécessaire, qu'on n'a pas forcément besoin d'un lieu, que l'écrivain n'a pas besoin d'un lieu auquel appartenir. Vous posiez la question tout à l'heure, Christophe, de l'écrivain voyageur. Je pense que l'écrivain, par définition, est voyageur, même s'il reste coincé dans sa petite chambre.
Il y a eu d'ailleurs un très beau voyage autour de ma chambre.
Ouais. Il y a un mot valise aussi qui soude.
Ouais.
Et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est le mot de Jean-Claude Charles, enracinérance.
Qui revient souvent, qui est votre mentor, Mackenzie Orsel. Vous conseillez à Nicolas Hédier de le lire, d'ailleurs.
Oui, comme il me conseille de lire des choses souvent.
Ouais.
Non, c'est important parce que...
Enracinérance.
Jean-Claude Sade, c'était un grand écrivain, voyageur. Il vivait entre Chicago, Paris, New York. Et quelques mois avant sa mort, il est venu en Haïti. Mais pour nous, les lecteurs haïtiens, tous les lecteurs de Jean-Claude Charles, c'est un grand voyageur. C'est le mec qui a une vision très large du monde. Et donc, quand il est venu en Haïti, et il était là en train de répondre aux questions des jeunes, et à un moment donné, il a dit cette chose. « Je suis un écrivain de la rue de l'enterrement. » La rue de l'enterrement, c'est une toute petite rue en Haïti. C'est-à-dire le grand écrivain qui a parcouru le monde qui dit ça. Et donc, il dit « J'écris depuis cette petite rue. » Moi, ça m'a sauvé la vie. Parce que avant, j'arrêtais pas de me dire « Mais comment est-ce que je vais faire avec tout ça ? Avec tout ce chaos, avec tout ce bordel en Haïti, avec toutes ces choses qui vont dans des sens fous. » Et donc, lui, je pense qu'avec ce mot, avec cette phrase, il m'a permis de me rassembler. Voilà.
Liv Joris, vous êtes d'accord avec cette
idée?
Donc, un écrivain est bien d'un lieu, alors, finalement.
Moi, si je pense au village de Nerpelt que j'ai quitté, je le trouvais ennuyeux, il n'y avait rien là-bas. Aujourd'hui, il est au centre de mes pensées, c'est de là que j'ai démarré. Et je ne peux avoir une vision sur le monde qu'à partir de ce petit village où je suis née et qui m'a fait dans le sens que je grandis dans une grande famille, nous sommes 9, et partout où j'ai voyagé, j'étais à l'aise dans des grandes familles, je disparais très facilement. J'aime aussi le chaos, des grandes villes, des grandes familles, mais en même temps, je suis un enfant très seul de ma grand-mère qui vivait dans la même parcelle, dans une maison
Bobonne,
en face,
c'est
Bobonne,
ça.
Oui,
voilà.
Et qui m'a donné le sens du monastère, de me retirer, de regarder le monde de l'autre côté. Et je fais partie de l'autre monde, mais j'ai aussi ce monde intérieur.
C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ces deux livres, et que je voulais vraiment qu'on vous réunisse, c'est qu'il y a l'idée à la fois, sans arrêt, la richesse du monde, la multiplicité du monde, des mondes, des différentes contrées dans lesquelles les uns et les autres vous vous déplacez. Et puis, par effet presque de miroir, l'envie de s'immobiliser. Je ne sais pas si c'est dans un lieu ou dans un temps précis pour fixer des choses qui, sinon, s'éparpilleraient, partiraient en morceaux. J'ai eu cette impression-là en lisant particulièrement Fony, en disant pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de revenir comme s'il fallait rassembler les morceaux, alors même que vous dites que Fony a fait disperser tous les morceaux.
Bon, j'ai toujours voyagé autour et j'ai probablement pensé pendant longtemps que je n'allais pas l'écrire. J'avais l'impression que c'était comme un feu et j'allais l'éteindre si j'allais toucher. Mais un jour, c'est venu comme ça, tout seul, j'ai commencé à écrire. Et effectivement, je crois que c'est très important de savoir d'où on vient et qu'est-ce qui vous a fait.
Est-ce qu'il y a une peur chez vous quand on commence votre livre, Liv Joris? Ça peut même être choquant, d'ailleurs. On vous appelle pour vous dire que votre frère est dans le coma. Il faut aller le voir et vous êtes en train d'écrire. Et vous dites... Je ne dois pas aller là-bas, sinon je ne vais plus pouvoir écrire.
Et
je vais me perdre
manger.
Dans autre chose. Et voilà. Ouais. Et c'est pareil, dans ce tourbillon de la vie dans lequel vous êtes très à l'aise, Nicolas Hidier et Mackenzie Orcel, on sent qu'à un moment, il y a une... si vous perdez cette fixation que vous imposez, d'ailleurs, avec cet échange de lettres, si vous perdez la fixation dans l'écrit, il y a danger. C'est ce même danger ou cette même peur à conjurer que j'ai senti dans vos livres.
Oui, bon, dans mon cas, comme... On n'avait pas d'ambition pour moi. J'ai l'impression d'avoir fui pendant très longtemps. Je fuyais. Donc, toujours quand on essaye de me ramener là-bas de force, je dis non, parce qu'il faut que je me préserve, parce que le métier d'écrivain, lire pour ma mère, c'était pas des choses légitimes. Au début, elle disait il fallait prendre la poussière, nettoyer la maison, qu'est-ce que je suis en train de ne rien faire.
L'activité d'écrivain est menacée par la marche normale du monde quotidienne du monde, des familles, pour
s'il
vous ?
S'il y a que ça, effectivement, oui. Comme mon père voulait qu'on s'occupe à un certain moment seulement de notre frère parce qu'il avait tant de problèmes, personne ne l'a fait de la famille parce que si on allait le faire, on allait disparaître.
Mais les autres ne sont pas écrivains ?
Non, mais ils ont eu des vies, ils ont eu des enfants, par exemple, que moi, je n'ai pas eu.
Et pour vous, Nicolas Hidier ?
J'ai l'impression qu'on vit l'époque du plus grand isolement, notamment parce que le monde a un peu explosé, le monde numérique nous a entourés, nous englobe. Et avec Mackenzie, s'écrivant, on fait un peu de l'anti-Twitter, de l'anti-réseaux sociaux. On s'écrit de manière, évidemment, grâce à Internet, grâce aux mails, donc on utilise la modernité numérique, mais pour faire autre chose et pour vraiment se parler, pour véritablement se réunir. Et moi, je pense que la maison qu'on a retrouvée ici, et du reste, le livre porte le nom d'un lieu, une boîte de nuit. C'est un lieu, un petit lieu confiné qui n'ouvre que tard le soir et qui ferme au petit matin. Mais ce lieu-là, c'est pour moi aujourd'hui le lieu d'une amitié. Et encore une fois, la boîte de nuit à Calcutta finira peut-être par être détruite. Il suffirait qu'une bombe y explose ou qu'un avion s'y écrase. Mais en revanche, l'amitié qui s'y est tissée, eh bien, elle, j'espère, et j'ai la conviction qu'elle est indestructible.
Ouais. Donc, il y a quand même cette menace, il faut agir contre cette menace de dispersion de tout par l'écriture. C'est un antidote à ça.
Revenir sur les lieux de l'enfance, parce que on a fait pas mal de choses, on a voyagé, on a lu des bouquins, on a rencontré des gens. Parfois, on a l'impression de se perdre. Je suis où dans tout ça? Et donc, je pense que de temps en temps, c'est important de faire un petit pas de côté ou revenir tout simplement sur les lieux de l'enfance et déterrer des souvenirs, des démons, des fantômes et les extérioriser. Et je pense que c'est un acte à la fois politique et libérateur.
On va continuer à revenir avec vous, Liv Joris et vous, Mackenzie Orcel et Nicolas Hidier. On va revenir dans vos livres, des livres du retour. On commence avec vous, Liv Joris, et avec Fony, donc, qui paraît chez Actes Sud, traduit du néerlandais par Marie Haug. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Winter Lady de Leonard Cohen.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover.
Well, I live with a child of snow. When I was a soldier and I fought every man for her until the nights grew colder. She used to wear her hair like you, except when she was sleeping. And then she'd weave it on a loom of smoke and gold and breathing.
Winter Lady de Leonard Cohen, c'est le choix de Liv Joris dans Le Temps des Écrivains avec Nicolas Hidier et Mackenzie Orcel. Liv Joris publie Phony chez Actes Sud, Nicolas Hidier et Mackenzie Orcel, Une boîte de nuit à Calcutta, c'est chez Robert Laffont. C'est un titre qui est très très important dans votre livre, c'est votre chanson préférée, Liv Joris, où on entend Traveling Lady. Stay a while.
Until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Ça, c'est vraiment l'inverse de ce que mes parents voulaient de moi.
Ouais.
Je voulais ça. Ah, j'ai dit, là, il y a des endroits où tu passes juste une nuit et tu as autre chose à faire. Mais quand même, cette nuit, elle est belle. Ah, que j'aille vers ça. Ceci dit, je voulais ça, mais en même temps, à l'intérieur de moi, quand je tombais amoureuse, j'étais quand même malheureux quand l'autre partait le lendemain. Donc, on ne s'y met pas facilement.
Ouais. C'est un livre qui est irrigué par la musique. Il y a beaucoup de jukebox, voilà, où on met en famille, dans des endroits, dans des boîtes, d'ailleurs, dans des boîtes de nuit ou des clubs de cette petite ville, en fait.
Oui,
où
de
vous
deux
vivez.
Côtés de la frontière, voilà. Parce que la Hollande est tout près et mon frère joue de la musique, les Bob Dylan et Leonard Cohen.
On est en quelle année?
Les années 60, hein? Ouais.
Voilà, qui explose, qui ouvre les portes, comme vous le disiez. C'est un très beau livre que ce Phony, Liv Joris, où vous, la voyageuse, l'auteur de Portes de Damas sur la Syrie, de La Danse du Léopard, de L'Heure des Rebelles sur le Congo, mais encore de Mali Blues et de Sur les ailes du dragon, je le disais, qui vient de sortir en poche chez Babel. L'auteur dont le matériau était la vie des autres, hein, jusqu'alors, votre regard sur la vie des autres, sur ceux qui sont loin, ceux qui a priori, enfin dont on voudrait, dont on souhaiterait peut-être qu'ils soient différents sur d'autres continents, dans d'autres réalités, eh bien vous les laissez de côté là pour accomplir un tout autre voyage intérieur dans la Belgique de votre enfance, aux côtés de votre famille, de vos proches, dont certains ne sont plus là, dont ce Phony, Alphonse, dit Phony, votre frère aîné, dont toutes vos copines étaient amoureuses et qui s'est détruit à coups de drogue, que vous avez, dites-vous, laissé se damner.
Je ne connais pas ce mot en français,
ouais,
pardon.
Damnation.
Damnation.
C'est une phrase du mot, je l'ai laissé se damner.
Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire, je me rends compte que si lui-même ne veut pas se mettre debout, je ne peux pas l'aider. Et qu'au contraire, si je vais essayer de l'aider, je vais me détruire moi-même. C'était dangereux d'être proche de lui parce qu'il va vous amener vers lui et après, il va vous manipuler, il va vous rendre petit. Il m'a appris le danger que parfois j'ai rencontré pendant mes voyages et ça m'a aidé à voyager, à me méfier de ceux qui manipulent, ceux qui veulent le mal pour toi. Et en même temps, c'est ton frère, il est proche de toi avec tant de petits fils, vous êtes attaché à lui. Quand je le décris, quand il a 14 ans, il veut plus aller à l'école, il déteste ces grandes casernes où il est, et il sort de là, il s'est chamaillé avec son professeur de sport, il va dans la rue, et je me dis, mais il était comment il se sentait? Donc j'étais proche de lui aussi, et j'étais triste de son destin, parce que il avait plus de talent que moi, je pense. Il aurait pu être un grand chanteur. Il aurait pu être encore là. Il a 4 ans de plus que moi. Il aurait pu être là avec nous, à rire, à penser, à réfléchir. Et il n'est plus là. Il ne pouvait pas faire et continuer. Il détruisait tout sur son chemin.
Et quand je dis vous accomplissez un autre voyage, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est un voyage vers lui que vous avez tenté d'entreprendre avec ce livre qui porte son nom, enfin le diminutif par lequel on l'appelait?
Je crois...
Parce que la notion de voyage est...
Oui, bien sûr. C'est le voyage le plus long et lointain parce que c'est un voyage que je connaissais un peu, mais pas tout à fait. Il y avait des zones d'ombre. Je les ai explorées maintenant. Oui, c'est le voyage qui a toujours été à l'intérieur de moi. C'est le voyage vers lui, mais je crois que c'est aussi le voyage vers le siècle passé en Flandre. Ses parents qui grandissent, qui croient encore à tant de choses, aux sœurs de Don Bosco, et qui par après, d'abord la Deuxième Guerre mondiale, et après dans les années 60, ils vont perdre tout ce qui leur était proche. Le papa va perdre la religion, ils vont perdre leur fils aîné, ils vont perdre la confiance à l'église. Moi, je me rappelle, ma maman, un jour, le même prêtre qui lui a dit qu'il fallait avoir beaucoup d'enfants, le jour où elle avait vraiment des problèmes avec Fonny, elle est allée en détresse à l'église et le prêtre lui a dit « Vous n'auriez pas dû en avoir autant, madame. »
Alors, à partir de ce voyage, s'enclenche finalement une série de scénettes, par petites touches, de dialogues, des scènes extrêmement fortes, pleines de rock, de famille, de paysages, de filles, de chamailleries, de naissances, une vie, des vies. Je voudrais qu'on vous entende lire, Liv Joris, un passage. J'ai choisi un passage où, voilà, où Fonny est en train de se métamorphoser.
Fonny a scié les pieds de sa table et il a repeint sa chambre en noir. Toutes les formules mathématiques et les maximes philosophiques qui étaient sur les murs ont succombé. À quoi lui servirait un diplôme du jury central, dit-il. On apprend beaucoup plus en étant élève libre. Mon papa lui a trouvé du travail. Peindre les ponts, chez un cousin, entrepreneur à Rosselaar. Fonny se vante encore de l'argent qu'il gagne son boss et l'avenir doré qui lui est promis, quand, déjà, il arrête. Il veut être ouvrier sur les lignes à haute tension. C'est bien plus intéressant. Chaque fois que je reviens du pensionnat, Fonny a de nouveaux projets. Il partira peut-être en Arabie Saoudite, où on a besoin de mecs costauds pour poser des pipelines dans le désert. Le boulot est dur. Le soleil te tape impitoyablement sur la tête et tu ne peux rentrer chez toi que tous les 6 mois. Il y en a qui ne supportent pas ça. C'est pourquoi c'est bien payé. Fonny a les cheveux longs. Il porte sa guitare sur l'épaule et s'est approprié les 2 pièces de devant de la vieille maison. Au cours de ses pérégrinations, il a rencontré Léon, un beau type basané qui possède une Porsche blanche et joue divinement du piano. Soudain, Léon habite dans les pièces de devant et par les fenêtres ouvertes s'échappent des sons mélancoliques que j'identifierai plus tard seulement à la musique de Chopin.
Voilà. Merci Liv Joris pour cet extrait de Fonny. Le livre s'ouvre par une phrase, vous l'avez dit, hein, j'ai accompli mon voyage le plus lointain. Dans Four Quartets, nous ne cesserons pas notre exploration et le terme de notre quête sera d'arriver là d'où nous étions partis. Le retour dont vous parliez, Mackenzie Orsel, et de savoir le lieu pour la première fois. C'est vraiment le mot « quête », encore plus de voyage, qui est important pour ce livre.
Il fallait partir pour pouvoir revenir, dans mon cas. J'aurais jamais pu voir, et effectivement, comme Nicolas a dit, c'est un village de mes rêves. Mes frères et mes sœurs ne peuvent pas le voir comme ça, parce qu'ils savent pas comment il est précieux. Autant je pensais, c'est ennuyeux, quand je pars et je vais ailleurs et je vois autour de moi des gens qui ont le même talent et même plus que moi, mais qui ne peuvent pas réussir dans la vie parce que l'endroit où ils sont nés ne leur a pas donné les choses que moi on m'a donné. Donc ça crée en quelque sorte un peu un devoir aussi, devant ce destin et ce qu'on t'a donné gratuitement en fait. Mais tu ne savais pas quand t'as grandi. Ouais.
Pourquoi vous dites que les autres ne peuvent pas le voir comme vous le voyez?
Parce qu'ils
Même
n'ont
vos
pas
frères
été.
Et vos sœurs.
Ils trouvent tout ça, c'est venu gratuitement et ça vient de soi. Et d'ailleurs, on s'en plaint parce qu'on n'en a pas eu assez. Mais quand on voyage là vers des gens qui n'ont pas eu ces possibilités, on sent tout d'un coup qu'on est privilégié. Moi, je sens aujourd'hui, je me suis rebellée. D'autres sont punis, sont torturés pour se rebeller. Moi, on m'a dit, ah bon, tu veux pas te marier? Bon, qu'est-ce que tu veux faire alors? Montre-nous. On fait un peu de place pour toi. Assieds-toi. Et voilà, aujourd'hui, j'ai des livres, j'ai un éditeur, je suis traduit en français, je suis ici aujourd'hui. Tout ça n'est pas évident.
Est-ce que c'est à lui que vous devez la vie voyageuse que vous avez eue? Est-ce que c'est à lui que vous devez d'avoir quitté ce nid catholique belge pour aller à la rencontre de ce pourquoi vous étiez faite, finalement, de celle que vous étiez appelée à devenir?
C'est pas seulement lui, c'est aussi les oncles missionnaires. C'est peut-être même aussi ma sœur trisomique, qui était l'ange de notre famille.
Hilde.
Et voilà. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'elle pense exactement. Tu lui dis à quoi tu penses. C'est un mystère, une fille comme ça. Elle est joyeuse et pourtant, elle a eu tellement moins de choses que nous. Elle est dans une institution, mais on l'aime. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai toujours eu l'œil aussi pour ce qui est fragile, pour ce qui n'a pas fait du mal, pour qui ne juge pas. Ça, c'est Hilde. J'ai grandi avec un petit trésor comme ça.
Et ça, vous vous en rendiez compte avant d'écrire? Est-ce que le fait d'écrire là-dessus a réveillé des choses de l'oubli que vous n'aviez peut-être pas vues? Parce que vous avez hérité d'archives, hein, c'est ça, ce livre?
Oui.
Il procède d'archives sur lesquelles vous vous penchez, notamment le journal de Foné.
Oui, qui m'ont beaucoup aidé. Mais en même temps, je pense que celui qui voyage, et je crois que mes collègues seront d'accord, il doit bien se connaître. Donc, il faut savoir qui on est pour pouvoir aller vers les autres. Il faut avoir un certain équilibre aussi pour que les autres vous parlent. Ils ne parlent pas à quelqu'un qui sent instable. Non. Ils doivent sentir que vous êtes stable, que vous suffisez à vous-même. Donc, les autres peuvent venir vers nous et nous parler. En même temps, certaines choses sont devenues plus claires.
Livre Joris, vous dites dans Foné, vous parlez d'un nouveau livre dans lequel vous êtes. D'ailleurs, vous êtes, je le dis à dessein. Je suis contente de pouvoir me remettre au travail. Après 4 mois d'écriture, mon livre est une maison où habiter. Je m'y promène aisément d'une pièce à l'autre. Il se déroule dans un quartier populaire de Damas où j'ai séjourné 6 mois chez mon ami Syrian Serkin. Une réplication de cette maison syrienne dans laquelle vous vivez par le livre, en fait. Le livre est un lieu où l'écrivain doit apprendre à habiter pour le mener à bien.
Moi, pendant 3 ans, quand j'écrivais ce dernier livre, je suis jamais seule. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au Congo et j'écrivais seule dans une maison. Et parfois, les gens venaient et disaient, mais la télévision est cassée. Comment il n'y a pas de bruit si vous êtes seule? J'ai dit, non, moi, je ne peux pas être seule quand je suis en train d'écrire. Je suis en compagnie de quelqu'un.
Non, mais sur l'idée de lieu, l'idée d'un livre comme un lieu où on se met à habiter.
Oui.
C'est drôle pour quelqu'un qui a changé tellement de maison.
Oui, mais en même temps, j'habite depuis plus que 40 ans dans la même maison à Amsterdam.
Ouais.
Et toutes les fois que je commence à écrire un livre, je le vide, tout le matériel du livre ancien. Aujourd'hui encore, ma maison, elle est meublée, ma chambre de travail est meublée, l'archive de la famille Joris, tous les albums, les photos. Et un jour, si je vais vers un autre livre, ils vont encore déménager.
Ah, ils partiront en fait,
ils
les
partiront,
archives.
Ils vont déménager dans le grenier.
Ah, ouais.
Ah, oui, très grand.
Fois, ouais. Oui. Vous avez travaillé finalement comme les autres livres sur le voyage, à partir de carnets, de textes, de documentation, finalement.
Oui. J'ai commencé à écrire plus tôt que d'habitude. L'homme avec qui je vis, il était un peu inquiet. Il dit, mais tu dois encore faire des recherches. J'ai dit non, que je commence d'abord pour savoir si je sais le faire. Et de temps en temps, je suis partie 2 semaines, 2 mois en Belgique pour aller fouiller, rencontrer des anciens voisins de mon frère, des copines de mon frère, des amis de mon père. Donc ça a été un peu différent que d'autres livres où je m'installe avec tout le matériel et je m'enferme pendant parfois 1 an, parfois plus.
Dernière question que je voudrais vous poser, Liv Joris, et puis ça va me permettre d'arriver à Nicolas Hidier et Mackenzie Orcel. C'est un livre où, paradoxalement, vous enchâssez énormément de vos voyages. En fait, on vous voit à travers Foné, finalement, on revit aussi les autres voyages qui vont donner les livres de Liv Joris. Et en fait, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de garçons dans ces pages. Je trouve ça très... Voilà, la vie est là, la vie circule pleinement, dont un très beau dans une ville de totale utopie en Amérique, un ange qui s'appelle Bruce dans le livre. Je voudrais juste citer ce passage. En fait, vous l'avez rencontré et puis vous dit, bah venez, j'habite dans une sorte de ville fondée par l'architecte italien Paolo Soleri. Ça s'appelle Cosanti, c'est à côté de Santa Fe. Et bon, vous passez la nuit avec lui. Je regarde son visage régulier, ses cheveux de lin sans la chaleur de son bras, puis sa main qui cherche la mienne. Novembre touche à sa fin, il fait froid dans sa chambre. La fenêtre plein cintre et dépourvue de vitres, autant Bruce était loquace dans la voiture, autant il est silencieux, presque timide quand nous sommes seuls allongés l'un contre l'autre dans son lit d'une personne. Au moindre mouvement, le froid du désert s'engouffre sous son sac de couchage dézippé. Je me réveille dans un paradis à la Tolkien de voûtes et de coupoles serties de verre coloré, entouré d'oliviers, de cactus, de pins et de montagnes à l'horizon. Le ciel est bleu vif, le vent sec du désert siffle entre les pavillons fantasmagoriques que relient des sentiers sinueux. Je pense à Rob, qui ne croit pas aux meubles mais aux planches. Ici, c'est autre chose. Soleri est un disciple de Frank Lloyd Wright, raconte Bruce. Il a également été influencé par l'architecte espagnol Gaudi. La nuit suivante, je me blottis à nouveau contre sa peau fraîche dans l'odeur du feu de bois. Et ça continue, et ça continue.
C'est du Leonard Cohen, ça. Parce qu'après, je pars.
C'est ça, Traveling Lady. Traveling Lady,
until the night is over.
And you're not my lover.
Yeah.
Voilà. Les voyages, ce sont des corps, Joris, aussi. On a parlé de lieux. Est-ce que ce sont des corps aussi?
Je ne sais pas tellement. C'est pas tellement. Ça, c'est du français qui m'échappe.
Oui.
C'est très philosophique.
Mackenzie comprend, je suis sûr.
Si, c'est voilà. des corps.
Et Nicolas aussi, d'ailleurs, parce que vous parlez de ce...
C'est du sang, c'est de la sueur, c'est la vie qui vibre. C'est nous, c'est du réel, c'est de la chair. Enfin, on écrit avec son corps, quoi. C'est une activité.
Non, mais avec le corps des autres aussi.
Le corps des autres, le corps du monde. La littérature parle de nous.
Donc, exactement. Vous êtes d'accord, Nicolas Hidier?
Absolument.
Vous qui parlez d'une indienne dans ce t-shirt que vous retrouvez paré de bijoux pour son mariage.
Oui, c'est Mansi.
Voilà.
Mansi qui.
Très beau portrait de femme.
Qui un jour m'annonce qu'elle se marie. Je pensais que c'était une bonne nouvelle.
Elle travaille avec vous, hein, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Voilà. En Inde, il y a énormément de mariages arrangés. Donc, en fait, c'est une nouvelle sinistre pour elle, puisque c'est la fin de sa liberté, d'une certaine façon, très, très réelle. Et je suis tout à fait d'accord avec Mackenzie. L'écrivain, avant d'être un esprit, c'est un corps. L'esprit, c'est les philosophes, c'est les économistes, c'est les politiciens. L'écrivain, c'est un corps, c'est des sensations, c'est des odeurs, des goûts, du toucher, de l'amour, de la douleur. Et si l'écrivain se détache de son corps, il sera autre chose qu'un écrivain. Ça sera peut-être intéressant, mais ça sera plus de l'écriture.
On va faire appel au corps. On écoute le choix de Mackenzie Orcel avant de continuer à parler d'une boîte de nuit à Calcutta, Nicolas Hidier et Mackenzie Orcel. Vous avez choisi Mackenzie Orcel.
Bitovaoba, le titre, c'est Kitemri.
Voilà, et qu'est-ce que...
C'est une chanson qui parle de la blessure haïtienne, de l'histoire, de la mémoire, du présent très difficile haïtien. Et j'ai choisi cette chanson parce que je voulais faire un clin d'œil à cette jeunesse en ce moment qui crie dans les rues de Port-au-Prince contre cette nouvelle forme de dictature, contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, contre l'ignorance institutionnalisée, normalisée et contre les inégalités sociales. Et donc je voulais dire à cette jeunesse que je suis là, je suis avec elle.
On écoute donc Bitovaoba.
Bitovaoba, Kitemri.
Kitemri.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Bitovaoba, Kitemri, c'est le choix de Mackenzie Orcel. Il publie avec Nicolas Hidier une boîte de nuit à Calcutta et nous sommes dans le temps des écrivains avec Liv Joris qui publie, elle, Phonie. Alors le « là », dans ce livre « Une boîte de nuit à Calcutta », que vous écrivez donc, comme on dit d'ailleurs, à quatre mains, comme le veut l'expression consacrée, là, bah, c'est une boîte de nuit à Calcutta. Vous vous retrouvez, après vous êtes rencontré à Pékin, où vous étiez en poste, Nicolas Hidier, là vous êtes en poste à Calcutta, à l'époque du livre. Il y a beaucoup de bruit dans cette boîte de nuit, il y a beaucoup de gin tonic, vous avez beaucoup de choses à vous dire, et puis comme bah, vous ne vous entendez pas dans la boîte de nuit, vous vous dites, c'est l'idée de Mackenzie, on va mettre ça par écrit, voilà. Et Nicolas vous dit, ok, alors ça donne quoi? Ça donne un dialogue, une correspondance, une confrontation, d'ailleurs une correspondance où on se répond pas forcément, on se répond quand par exemple vous envoyez à l'autre un bout de nouvelle, comme un cadavre exquis qu'il est amené à poursuivre, mais de temps en temps c'est extrêmement personnel, ça regarde presque uniquement celui qui raconte et qui ne demande même pas d'ailleurs son avis à l'autre. Vous parlez des livres que vous lisez, des écrivains que vous admirez, que vous rencontrez parfois, je pense à Arundhati Roy, très beau passage Nicolas Hidier avec elle que vous allez chercher parce qu'il y a une délégation française importante, etc. Elle est là et vous décrivez merveilleusement le frottement de son sari contre la ceinture de sécurité du véhicule. Vous parlez de vos enfants, de vos envies de liberté, de ce que c'est aussi. C'est un livre sur la littérature aussi, et pourquoi on écrit, à quoi ça sert, si tant est que ça ait jamais servi à quelque chose, ce qu'elle est en train de devenir aussi et qui vous inquiète. Et on en parlait tout à l'heure, c'est drôle pour le lecteur parce que on a l'impression d'assister à quelque chose qui ne nous regarde pas, mais en même temps, comme vous nous l'offrez, hein, comme vous avez décidé d'en faire un livre, on se dit que c'est aussi pour nous. Vous avez toujours eu l'intention de publier ce livre? Ça devait être un livre à offrir au public ou d'abord quelque chose qui vous concernait l'un et l'autre, et vous deux seulement?
Oui, dès le départ, on décide d'écrire un livre pour mieux s'entendre. Donc on voulait l'offrir au public. En revanche, c'est un petit peu comme quand on s'avance sur un chemin obscur, périlleux. Tout seul, ça peut être très difficile, ça peut être dangereux, on peut avoir peur. Marcher à deux, ça nous a permis de pas avoir peur. Donc d'aller le plus loin possible à deux. Et une fois qu'on est deux, eh bien on peut être trois, quatre. Et je crois que c'est le principe même d'une boîte de nuit. On peut être deux assis au comptoir, mais si la boîte de nuit est vide, c'est pas du tout amusant.
L'écriture, c'est mieux à deux, Mackenzie Orsel?
Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, je me suis jamais vu écrire un livre avec quelqu'un.
Ouais.
Les Immortels le disent si bien.
Bien sûr. Votre livre sur les prostituées.
Voilà,
de Port-au-Prince.
Un écrivain qui raconte l'histoire de l'autre. Moi, j'ai toujours trouvé ça compliqué, écrire un livre avec quelqu'un, mais là, c'était pas tout à fait ça. On était ensemble, seuls, ensemble, seuls, ensemble, seuls. C'est-à-dire, je puisais dans ma vie, dans mes voyages, dans mes lectures, et je pouvais voilà installer poser ces choses là sachant que Nicolas était pas loin. Et parfois,
mais il fallait son regard pour que vous écriviez ces choses là il fallait
son regard, pour les matérialiser,
imaginer quoi.
Ouais, oui.
Et je crois que c'est vraiment comme une randonnée, c'est-à-dire qu'on a marché ensemble, mais c'est comme lorsqu'on fait une très longue marche, on n'est pas sans arrêt en train de se parler, on ne se soutient pas sans arrêt, sinon on va pas très loin. Donc en fait, vous disiez, Christophe, un livre écrit à quatre mains. Brusquement, en vous écoutant, je me suis dit que c'était plutôt un livre écrit à quatre jambes. On avait quatre jambes, on a marché. Parfois, en effet, on était seuls, comme deux randonneurs qui sont seuls face à eux-mêmes. Mais en même temps, le simple fait de voir la présence de l'autre, qui parfois devient un soutien, ça nous a permis, eh bien, je crois, encore une fois, d'explorer un territoire un peu différent.
Alors, ce soutien, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, moi, en lisant le livre. Parce qu'évidemment, hein, vous parlez de votre vie, de vos enfants, de paysages, des gens qui vous entourent, etc. La vie, j'allais dire, de tous les jours, hein, qui peut être d'ailleurs très chatoyante. Les avions aussi. Le fait que les écrivains, maintenant, foulent plus les moquettes d'aéroports qu'autre chose, enfin ceux qui ont la chance peut-être de voyager. Mais il y a une chose, et quand vous parlez de soutien, c'est je reviens à ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même qu'il fallait soutenir par rapport à une angoisse, et que cette angoisse-là, c'est ce qui est en train de devenir la littérature quand on est un écrivain de 36 ou 40 ans.
37,
vous avez 37. Donc de moins de 40 ans, c'est-à-dire un jeune écrivain dans un monde qui change trop vite. Je voudrais qu'on vous entende justement ce que le passage illustre très bien ça, puis vous allez me répondre après. Je voudrais qu'on vous entende Mackenzie d'abord, et puis ensuite Nicolas. Et ce sont deux passages qui se répondent dans le livre.
Un écrivain, le mot pris dans son acception la plus simple, est quelqu'un qui produit des œuvres littéraires. Ce n'est pas une marque, une bête de foire, le gestionnaire de ses propres livres. Je crois comme Roland Barthes qu'écrire, ça revient à tuer le désir d'écrire quelque chose. Mais souvent pris dans des tourbillons médiatiques et autres rutilances, il est comme une sorte de toupie dans la main d'un enfant perturbé. Je n'oublierai jamais cette vieille femme qui s'est présentée à la salle où j'animais un atelier d'écriture. Je comprends l'amertume de ceux qui font un boulot qu'ils n'aiment pas. En disant, bon, on m'a dit qu'il y avait un Haïtien ici, moi j'aime les rencontres, je vis seul, alors je me suis dit que c'était un bon moment. En plus ici, comme vous pouvez le remarquer, il fait gris et c'est comme ça presque toute l'année. J'espère que vous nous avez ramené du soleil de votre pays. Les choix deviennent légitimes et indiscutables à la demande du public dont on suit le regard et les caprices.
Merci Mackenzie Orsel. Et la réponse donc de Nicolas Hidier dans ce livre, voilà, c'est quelques pages plus loin.
Difficile question celle de l'œuvre. L'ami Bukowski a touché en plein dans le mille, une fois encore. Il faut travailler, dur, à la mine. En ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant 8 ans à la promotion des auteurs et des livres français en Chine et en Inde. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, le découragement m'a pris. Tout se répète. Avec l'élargissement du monde, le salon des littérateurs a pris les dimensions des routes aériennes. Les écrivains foulant de leurs pieds les moquettes d'aéroports, comme avant ils le faisaient du salon de Juliette Récamier. Belle Juliette, avec sa dentelle blanche qui descend sur ses épaules laiteuses, une baguette en or enfoncée dans ses cheveux noirs remontée sur sa nuque, avec quelques petites boucles délicates qui frôlent la douceur de ses joues. La différence est que les auteurs qui avancent dans les salons de l'abbaye au bois, comme Chateaubriand, parlent de politique, d'art et d'opposition, alors qu'il y a une forme de consensualisme terrible qui s'empare des auteurs d'aujourd'hui. J'en ai rencontré bien peu qui osent avancer des idées de révolte, de désaccord, ou une position de retrait qui porte en soi une force politique. Jour après jour, je me sens plus politique, et j'ai une conception de la littérature qui le devient aussi. J'ai vu trop de misère ces derniers temps pour ne pas ressentir l'insurrection grandir en moi, comme si une petite armée intérieure, celle de la mauvaise conscience, avait percé le front et pilonné les tranchées de mon cœur, les tranchées de la bonne conscience. J'ai vécu aussi dans la proximité d'une frontière démilitarisée, indo-pakistanaise, et je m'étonne en revenant à Paris, quelques jours, je m'empresse de fuir dès que je peux, que les frontières de la guerre semblent si lointaines, alors que les soldats sans armes sont là, partout échoués sur les berges vaseuses des fleuves de béton. Un de mes projets est de rassembler les écrivains dans la politique. Littérature et politique. Je suis prêt à ramper dans l'humiliation pour répéter ce qui a déjà été dit et lutter de toutes mes forces contre les 280 signes des communicants chefs d'État.
Merci beaucoup Nicolas Hidier, Mackenzie Orsel. C'est donc deux extraits d'une boîte de nuit à Calcutta. Qu'est-ce qui vous donne ce regard si sévère dans ce qui est en train de devenir pour vous la littérature ? Parce que c'est un livre qui est aussi très très sévère là-dessus, sur ce plan-là.
Ça faisait, je crois, très longtemps, en tout cas plusieurs dizaines d'années, que le langage n'avait pas été aussi dévalué. Et que la politique, et même au-dessus de la politique, les grands flux économiques ultralibéraux dévaluent le langage, l'attaquent, forcent les gens à non seulement ne plus lire, mais ne plus savoir écrire. Et quand on a la chance d'avoir accès au langage, à la lecture, à l'écriture encore plus, je crois qu'il est de l'ordre d'une forme vraiment de devoir, et j'emploie le mot vraiment à dessein, bien de transmettre. On ne peut plus faire marche arrière, ou alors on s'avoue vaincu d'avance, et dans 20 ans on pourra toujours regretter de ne pas avoir fait cet effort de transmission, et de transmettre non seulement des idées, des sensations, mais aussi peut-être de manière encore plus simple, de transmettre le goût de la lecture à tous ceux qui ne l'ont pas, tous ceux à qui on le dénie.
Et est-ce que ce livre, justement, il ne pouvait être fait qu'à deux, parce que justement, seul, peut-être, c'est pas une question de courage, mais peut-être qu'il fallait avoir un allié dans ce constat que les choses sont en train, pour ne pas peut-être être taxé de naïveté ou même d'arrogance.
Et disons un petit centre. Ouais, un petit centre autour duquel tourne tout ça. Et Bois de Nuit à Calcutta, c'est un lieu où se passent des choses. Il nous fallait nous rencontrer dans ce lieu. Il nous fallait partir de ce lieu et ramener des choses. Et parmi ces choses, il y a cette vision du monde d'aujourd'hui, de la littérature. Moi, je voyage beaucoup grâce à à la littérature. Et moi, je vois des choses terribles, c'est-à-dire des écrivains qui montent sur la table, qui dansent, parce qu'après, les gens ils disent « Oh, il est sympa mmh. !» C'est-à-dire, on va dire mmh. « Voilà, oh, il est sympa, il est gentil. Ben, je vais prendre votre livre, monsieur.
Mmh. » Moi, et ça vous désole. Moi,
ouais. Ouais, ça me désole, parce qu'on oublie l'œuvre. On oublie le travail sur la langue, on oublie tout à l'heure, j'écoutais ce passage du livre de Livre Joris, c'est extrêmement ouais. beau, c'est-à-dire
il y a pas c'est pour ça qu'on fait entendre ouais, ouais, dans cette émission aussi la voix des écrivains.
Il n'y a pas que le voyage dans le monde, il y a aussi le voyage dans la langue, mmh. à travers la langue, mmh. le langage, l'invention, c'est-à-dire le sauvetage du langage. Et le dictateur en Haïti Duvalier, il a passé sa vie à rétrécir la langue, à cacher des mots, à les faire disparaître, et nous on arrive, on les déterre, on les révèle. On leur donne une présence.
Donc, c'est le retour à la langue. On parlait du retour aussi oui, tout à l'heure, de revenir
oui,
à la langue.
Justement, voilà. C'est très important. Ouais. Le monde d'aujourd'hui nous demande de danser sur la table, ouais. d'être dans une forme de performance. Après, il faut être gentil. Mmh. Il faut être sympa. Moi, je dis non, j'ai jamais autant donné au monde. Après, il faut pas me dire, il faut défendre. J'ai rien à défendre.
Mais je dis ça parce qu'on a même, j'ai même failli. Je me suis demandé s'il fallait que je vous invite. Tout le monde, parce que il y a ce passage. De toute façon, je n'avais pas grand-chose à dire. C'est vous, Mackenzie Orsel, qui écrivez ce passage-là. J'avais déjà tout mis dans mon livre. Vous parlez d'une émission de radio.
Oui, mais chez vous, c'est intéressant.
N'est-ce pas pour ça qu'on écrit ?
Je vais vous dire pourquoi.
Tuer le silence en nous. Non, mais c'est une vraie question.
C'est une vraie question.
N'est-ce pas pour ça qu'on écrit tuer le silence en nous ou faire silence autour de nous ? Contre l'oubli. J'avais envie de quitter ce studio en courant. J'espère que c'est pas le cas, là, aujourd'hui.
Non, c'est pas le cas.
c'est quoi ce jeu infantile consistant à répondre à un tas de questions dès qu'on publie un truc? La littérature est un acte manqué, un lapsus, mais il y en a qui aiment bien, en font une passion. Alors ça, c'est une autre question, hein. Répondre à toutes les questions comme un coupable. Mais sinon, c'est vrai. Au fond, je veux dire, tout est dans votre livre. Nous, on sert à quoi? Juste peut-être à essayer de donner l'envie aux gens qui nous écoutent de les ouvrir.
J'aimerais seulement dire ceci. Vous m'invitez parce que vous avez lu mon livre. Je sais qu'il va y avoir un vrai débat sur la littérature, sur le monde. Ça m'intéresse. Mais il y en a qui lisent même pas le livre. Et moi, j'arrive, la première question. Alors, comment va Haïti après le tremblement de terre? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Mais il y a une chose dans ce que j'ai lu, en dehors de l'agacement légitime qu'on peut ressentir. C'est vrai qu'au fond, tout est mis dans le livre. Mais cette formule, je l'aime bien. Répondre à toutes les questions comme un coupable. N'est-ce pas pour ça qu'on écrit tuer le silence en nous ou faire silence autour de nous? Vous en parliez tout à l'heure, Livre Joris. Parfois, j'ai pas envie qu'on me tire. Je suis en train d'écrire. J'ai pas envie que le monde me reprenne. Je suis dans ma maison que j'habite, qui est le roman.
Ça me touche vraiment ce que mes jeunes collègues disent, parce que moi, je crois, j'ai encore connu une autre époque. Et je sens cette période très fort aussi. Hier, quelqu'un m'a dit... Un livre qui ne se vend pas, c'est pas un bon livre. C'est comme ça que ça se marche pour le moment.
Pas
c'est
ici,
horrifiant.
Hein.
Et moi, j'ai eu la chance aux Pays-Bas d'être éditée par un éditeur de livre en livre. Et je suis vraiment très contente d'appartenir à la maison Actes Sud qui m'a publié de livre en livre. J'ai 10 livres chez eux. Plus des poches, c'est merveilleux aussi, des petites poches. Comme ça, le budget de quelqu'un, il peut entrer dans mon œuvre par un petit livre. Mais ce n'est plus évident.
Alors c'est terrible, hein. D'ailleurs Nicolas, là c'est vous qui écrivez, Nicolas Hidier, les enfants ne sauront bientôt plus ce qu'est un livre, ni la vie privée, et je trouve ça très intéressant d'ailleurs de lier les deux, ce sont les deux cibles nouvelles des conquérants actuels, en finir avec le livre, ou les réduire à des produits d'hypermarketing, rendre la vie de tout le monde transparente et accessible possible, le lien entre le livre et la vie privée est la construction d'une mémoire que l'on peut tenir cachée. Ça m'intéresse énormément ce que vous dites, je suis entièrement d'accord et en même temps, paradoxalement, vous livrez dans un livre cette vie intime qui est la vôtre, vous la rendez d'une certaine manière transparente.
Je suis très ému dès qu'on pose cette question, très ému d'entendre Livre Joris parler de cette mémoire, y compris sa mémoire familiale, avec votre sœur qui ne pouvait peut-être pas autant user du langage que vous avez pu le faire ensuite. Je trouve ça extrêmement émouvant. De la même manière que j'étais bouleversé en lisant Les Immortels, le roman de Mackenzie. Parce qu'en effet, c'est des moments de très grande intimité. Et l'écrivain, c'est là qu'il se fait violence. Et en même temps, c'est une paix qui s'installe. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Puisqu'il se fait violence à sortir, à publier un livre, à le donner aux autres. Et en même temps, c'est une paix quasi sacrée, magique, gratuite d'une certaine manière, comme disait Liv tout à l'heure. Une paix gratuite, un don, peut-être un petit miracle, que de voir les autres vous soulager de ce poids vous prendre un peu sur leurs épaules, vous caresser de leurs yeux pendant quelques heures et absorber en eux ce qui était un poids ou une douleur pour vous.
Et l'intimité n'est pas la transparence, au fond.
Et l'intimité, je crois que c'est même l'inverse de la transparence. Ouais. Pour vivre caché, vivons heureux.
Ouais. Et la fiction n'est pas la transparence.
Et la fiction
et l'écriture n'est pas la
transparence. Et l'antipode. Voilà.
Dernière chose, Nicolas Hidier, très surpris aussi dans ce livre, vous faites parler un écrivain. Voilà, c'est parfois très cruel hein, sur les écrivains, et c'est ce qui fait aussi le prix de ce livre. Momin Latif, écrivain que vous connaissez bien, écrivain indo-pakistanais, on va dire, j'arrive pas à trancher en fait, et qui vous fait des révélations sur Laurence Durel.
Oui, et le Momin, c'est un des personnages de ces écrivains.
Des révélations dures.
Qui, en effet, me raconte. Alors, c'est un monsieur né en 1940, avant la partition entre l'Inde et le Pakistan. Donc, il est né côté Pakistan. Et qui, grande famille indo-musulmane, a voyagé à travers l'Europe, était ami avec des gens comme Marguerite Yourcenar ou Laurence Durel, qu'il connaissait très bien.
Et qui l'appelle un soir, qui lui dit, il faut que tu viennes.
Et qui lui dit, viens tout de suite, Momin, il y a un drame, 3h du matin. Momin Latif se débrouille pour arriver en voiture, tout ça dans le sud de la France. Il arrive chez Laurence Durel et là, en effet, c'est un drame puisque la fille de Laurence Durel est allongée, morte, dans son lit. Laurence Durel demande à Momin Latif de lui fermer les yeux, considérant que les Indiens sont très à l'aise avec la mort, avec la réincarnation, avec ce rite de passage. Momin Latif ferme les yeux de cette jeune femme morte à peine 30 ans. Et là, Laurence Durel lui dit, tu sais, elle est morte parce que depuis qu'elle a 13 ans, eh bien, nous couchons ensemble. Alors, c'est une histoire que je n'ai pas vérifiée. C'est un récit dit par un très grand conteur, Momin. Mais je pense que l'art de l'écrivain, c'est aussi de toucher des vérités que personne ne dit, que personne n'ose énoncer. Et tout ça raconté avec une forme de légèreté cruelle absolument extraordinaire qui m'a beaucoup marqué.
D'ailleurs, il commente, hein, c'est une histoire horrible. Non, voilà, c'est la question qui pose. Ça, il fallait l'écrire, Nicolas Hidier.
Moi qui adore les écrivains, j'aime qu'on les présente aussi dans leur complexité. De la même manière que j'aime qu'on présente les éditeurs dans leur complexité, les critiques littéraires, les romanciers dans leur complexité. Je crois qu'on est dans un monde qui tend à simplifier les choses et les aspérités de la vie, même si elles peuvent être monstrueuses, eh bien, font partie aussi de la littérature. Un écrivain absolument sans aspérité n'est peut-être pas aussi intéressant qu'un écrivain plein de gouffres. Alors c'est vrai que le gouffre qui s'est ouvert sous mes pieds quand Momin Latif me raconte cette histoire de Laurence Durel était considérable, mais je crois que ça fait partie aussi de cette admiration immense que Mackenzie et moi portons à la littérature. Et vous avez raison, une boîte de nuit à Calcutta, c'est aussi un hommage à la littérature.
Pour terminer, vous repartez sur quel voyage littéraire, Mackenzie Orsel?
Alors, je termine en roman là, et qui parle de moutons et d'empereurs.
De moutons et d'empereurs, ça va très bien ensemble, le panurgisme. Et vous, Nicolas?
Alors, j'en ai pas fini avec l'Inde. Je crois que les 4 années que j'ai passées en Inde m'ont bouleversé plus que je m'y serais attendu. Ouais. Donc voilà, je continue à écrire sur ce pays qui traverse aujourd'hui une crise politique et sociale absolument inouïe, symptomatique de l'état du monde.
Ouais. Liv Joris, comment on redémarre, on se remet en chemin après ce livre du retour?
On va regarder ce que ont fait les autres pendant qu'on n'était pas là. Donc, je vais partir en Égypte, au Mali, des pays où j'ai pas été depuis quelque temps et dont j'entends parler. On me dit, ah, mais j'ai envie de voir et de voir mes amis qui vivent là-bas. Et c'est par eux que je vais entrer dans la réalité d'aujourd'hui là-bas.
Très bien. Merci à tous les trois.
Merci.
Je rappelle le titre de vos livres. Donc, Une boîte de nuit à Calcutta, Nicolas Hidier et Mackenzie Orsel. C'est chez Robert Laffont. Phonie de Liv Joris. Donc, traduit du néerlandais par Marie Hawk. J'aime bien mentionner les traducteurs aussi. Même si vous parlez un français impeccable, Liv Joris, ce livre est traduit. C'est chez Actes Sud. Merci à tous les trois.
Vraiment.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Marie Lepeintre à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, podcaster et réécouter à l'infini sur franceculture.fr cette émission avec Liv Joris, Nicolas Hidier et Mackenzie Orsel.